The Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakara.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halud Mandi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
La Cour constitutionnelle demande au gouvernement d'apporter des corrections au projet de révision constitutionnelle. Elle l'oblige ainsi à renvoyer le projet qui doit être soumis au référendum devant les députés. Ce projet de révision constitutionnelle a été adopté le 10 mars 2017 en Conseil des ministres à Bamako et voté par l'Assemblée nationale le 3 juin dernier. Depuis, il suscite beaucoup de réactions à travers le pays. Quels sont les points qui doivent être revus? Quelles mesures ont été prises pour une bonne relecture de ce projet? L'opposition est-elle satisfaite? Nos invités, Mohamed Ould Sidi, député RPM de la majorité, Al-Kaïdi Touré, député URD de l'opposition, et Souleymane D, constitutionnaliste. Je suis Mohamedou Touré à la technique. Nouhoum Djiré.
Le Grand Dialogue.
Dans un arrêt rendu public hier, la Cour accepte la requête de l'opposition sur la durée du mandat des sénateurs qui n'était pas précise et la date du vote du projet de loi par les députés qui ne serait pas la bonne. Cependant, les 9 sages ont rejeté une autre requête de l'opposition qui évoquait la violation de l'article 118 de l'actuelle Constitution. Honorable Mohamed Ould Sidi, quels sont les autres points qui doivent être revus dans ce projet de révision constitutionnelle?
Bien, merci bien. Je profite de votre micro d'abord pour dire bonsoir à tous nos auditeurs de Radio Tamani qui nous écoutent à travers les villages et villes de la République du Mali, notamment ceux du cercle de Goundam que je représente ici à l'Assemblée nationale. Ensuite, donc, je pense que la Cour constitutionnelle est une juridiction qui s'occupe des recours pour les élections et du respect de la Constitution. À ce titre, nous avons un bon groupe de collègues députés de l'opposition, 14 je crois, qui l'ont saisi par une requête le 14 juin. Et depuis lors, elle était en train de préparer la réponse. Hier, le mardi, je crois, 4 juillet, la réponse est tombée et nous estimons que la Cour a beaucoup statué sur le droit. Mais les différents articles, l'article 118 que nos collègues ont prétendu que le Mali est sous occupation et qu'on ne peut pas faire de référendum, la Cour estime que cela n'existe pas parce qu'à notre avis, effectivement, il y a des problèmes de sécurité à travers tout le Mali, de Mopti à Kidal, mais c'est des Maliens qui sont révoltés et qui cherchent des droits et pensent qu'il y a le dialogue entre eux et le gouvernement. Et nous estimons que d'ici que le collège soit convoqué et que le référendum va être soumis au peuple, on va aplanir les différentes difficultés entre ces mouvements et la République et les autorités de la République.
Mais quels sont les différents points qui doivent être revus?
Bon, je pense que moi, je n'ai pas très bien, je n'ai pas beaucoup parcouru l'arrêt, mais je sais que j'ai écouté ce matin le ministre de la Réforme de l'État qui dit qu'il y a 7 points. Il y a quelques points, c'est des corrections, par exemple le 2 juillet qui doit être transformé, c'est une erreur matérielle, qu'on va transformer en 3 juillet. Effectivement, on a voté après minuit quand même, donc on était déjà dans le 3 juillet. Bon, ça, il y a ça. Ensuite, je crois que sur le mandat du président, des sénateurs, il est précisé que c'est un mandat de 5 ans pour les 2/3 qui seront élus par le suffrage indirect. Mais le tiers qui est réservé au président, on n'a pas spécifié le mandat. Mais moi, je pense que, à mon avis, à partir du moment où le début de phrase dit que le Sénat est une juridiction élue pour 5 ans renouvelables, il s'agit en principe de 2/3 et du tiers. Mais je ne sais pas, les gens, le droit, c'est autre chose. Ça, c'est mon avis. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'article 118, nous estimons que on peut, si on trouve la formule avec les différents mouvements signataires des accords d'Alger, on peut, les zones troublées peuvent, on peut toujours créer des bureaux et faire le référendum à ce niveau.
Mmh. Honorable Alkaïdi Touré, vous êtes député de l'URD, membre de l'opposition. Est-ce que vous pouvez nous parler des autres points qui doivent être revus? Honorable Sidi, vous venez d'en citer quelques-uns.
Et merci beaucoup, mon frère, et bonsoir aux auditeurs de Diré qui nous entendent en ce moment. Et je dis, apparemment, je crois que même l'article 218, là, 118, là, je crois que ça ne pose aucun problème. Il n'y a aucun problème. Déjà, sur l'avis qui a été donné, l'avis 2017-01 de la Cour constitutionnelle du Mali, il y a des points qui ont été soulignés, notamment l'article 48 qui omet l'accréditation des ambassadeurs et des envoyés spéciaux auprès des organismes internationaux. Il y a l'article 37 qui occulte dans la formulation du serment du président de la République la garantie de l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Et la nomination des membres de la Cour suprême, qui est régie par le seul article 119 qui dispose que les membres du siège de la Cour suprême sont nommés par décret du président de la République sur proposition du président de la Cour suprême. Et du parquet de la Cour suprême nommé par décret du président de la République sur proposition du ministre en charge de la justice. Donc, la Cour même a retenu que seuls les membres de la Cour des comptes doivent être nommés suivant l'article 47 nouveau par décret pris en conseil des ministres. Ça, c'est les autres points. Mais déjà dans l'avis, la Cour constitutionnelle a émis des avis sur ça. Ça doit être corrigé. Est-ce que ça ne devrait pas être corrigé? Mais malgré tout, La Cour constitutionnelle a donné son quitus pour la tenue du référendum. Et je lis encore dans cet avis aussi, l'État à travers ses représentants, je lis l'avis de la Cour constitutionnelle, les organes élus et les autorités intérimaires exercent la plénitude de ses missions régaliennes sur le territoire national. Est-ce que moi j'ai besoin de dire aux Maliens que ça c'est pas vrai? Est-ce que j'ai besoin de le dire? J'ai pas besoin de le dire. Quelle autorité à Kidal? Quelle autorité a Tombouctou dans certaines villes de
Tombouctou? Donc vous confirmez que l'article 118 a été toujours violé.
Est-ce que je vous dis simplement, je parle aux Maliens. Les Maliens nous entendent, qu'ils nous disent qu'est-ce que vous pouvez faire à Ténankou? Qu'est-ce que vous pouvez faire à Douansa?
À part l'article 118, est-ce que toutes les autres préoccupations de l'opposition ont été prises en compte par la Cour?
Nos préoccupations n'ont pas été prises en compte parce que nous ne serons jamais d'accord qu'on puisse reviser la Constitution par le Congrès. Ça, c'est un scandale et je vous dis que c'est de l'instabilité établie. Un pays dans lequel on peut réviser quand on remet la vie des Maliens entre les politiciens. Mais c'est des comptes qu'ils vont se rendre les uns les autres. Et ça, vous le savez, c'est la plus grande instabilité qui puisse exister. Et cette instabilité-là est créée parce que le ministre Apo l'a dit. Il dit que même Kouroukan Fougo, ils finiront par le mettre là-dedans quand ils vont mettre là, ils vont le remettre après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la porte qui est ouverte aujourd'hui, c'est la porte à tout ce que vous pouvez imaginer.
Souleymane Dé, vous êtes constitutionnaliste. Que pensez-vous de ce taré de la Cour constitutionnel?
Moi, je pense que la Cour constitutionnelle a été constante depuis le départ par rapport à ses jurisprudences. Parce qu'il n'est pas à signaler ici que la Cour, en 2012, avait, bien entendu, soulevé la question de l'atteinte à l'intégrité territoriale, du fait qu'il y avait certains groupes armés qui avaient proclamé l'indépendance, donc il y avait un risque de sécession du Mali, et que ces groupes armés étaient appuyés par certaines forces plus ou moins étrangères. Mais ce qu'il y a lieu de signaler, c'est que nous sommes en 2017, le contexte a changé. Et par rapport à cette histoire, nous sommes partis de l'accord, parce qu'on dit accord issu du processus d'Alger, parce qu'il ne faut pas occulter le fait que ce processus a commencé depuis l'accord préliminaire de Ouagadougou. Et là, des lignes rouges ont été tracées. On a demandé et on a dit à tous les groupes armés qu'il ne peut y avoir, en tout cas, négociation, tant que toutes les parties ne reconnaissent pas l'intégrité du territoire du Mali et le caractère indivisible de l'État malien. Et les groupes armés ont adhéré à cela. À partir du moment où personne aujourd'hui au Mali ne proclame l'indépendance ou ne veut tendre vers la sécession, ces risques qu'il y avait en 2012 a disparu. C'est pourquoi la Cour l'a réaffirmé, que le contexte a changé. Parce qu'en 2012, cette volonté de sécession n'existe plus aujourd'hui, en 2017. Et donc, du coup, il n'y a pas de raison qu'on puisse dire à la, que la Cour n'a pas dit les droits. Et sur cette épineuse question de l'article 118 dont tout le monde s'agrippe, et moi j'aimerais bien qu'on essaie de comprendre que là, derrière chaque article de la Constitution, il y a une histoire. Et le Constitution malien de 1992 s'est inspiré de la Constitution française. Et c'est l'article 89 de la Constitution française qui, elle, à son tour, s'appuie, donc l'article 89 de la Constitution française du 4 octobre 58, qui, elle aussi, à son tour, s'appuie sur l'article 94 de la Constitution du 27 octobre 46, et qui, là, bien entendu, s'inspire de la Charte des Nations Unies, article 2, paragraphe 4, qui dit qu'il y a atteinte à l'intégrité territoriale lorsqu'une partie du territoire est occupée par des forces étrangères. C'est fait en référence à la tentative, en tout cas à la révision sous le régime de Vichy, où les forces allemandes occupaient le sol français. C'est l'histoire de l'article 118. Et donc du coup, on ne peut pas l'extirper de ce contexte. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte que lorsque nous fouillons dans nos recherches, nous voyons bien que si vous regardez l'ouvrage de Georges Burdeau, le traité des sciences politiques de Georges Burdeau, le statut du pouvoir dans l'État, Georges Burdeau le dit de façon très précise que l'article 118 du Mali est inspiré de l'article 89 de la Constitution française, qui à son tour est inspiré de l'article 94 de la Constitution du 27 octobre 46. Et donc du coup, il explique que il y a atteinte à l'intégrité territoriale si seulement si un territoire est occupé par une force étrangère.
Donc vous voulez dire qu'actuellement,
ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le
l'article 118
au Mali.
N'a pas été violé.
L'article 118 au Mali, aujourd'hui, n'a pas été violé. Et il y a un point qu'il faut peut-être ajouter, c'est que l'atteinte à l'intégrité territoriale n'est définie par aucun instrument juridique aujourd'hui. Vous ne le verrez dans aucun vocabulaire juridique, vous ne le verrez même pas défini par les doctrinaires. Donc du coup, lorsqu'une, on l'a dit, l'article 118 de la Constitution dit qu'il ne peut y avoir révision s'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. Mais qu'est-ce que c'est qu'atteinte à l'intégrité du territoire? La Constitution ne le définit pas. Et lorsque nous regardons dans les dispositions partout, on n'a pas de définition. Et l'article 4 du Code civil est très clair en la matière. Hein. Lorsque une disposition est obscure ou lorsqu'une disposition n'est pas précise, il appartient au juge par le biais de l'interprétation de donner un contenu. Et c'est ce que le juge constitutionnel malien a fait, a donné un contenu à un article qui n'avait pas de contenu. Et donc du coup, on entend beaucoup de personnes dire que bon, il y a cette définition au moins qui se trouve dans le code pénal hein, de l'édition 2017, section 2, article 47. Là encore, il faut faire extrêmement attention. Nulle part dans cet article, il n'existe une définition de l'atteinte à l'intégrité. Regardez bien l'article. On dit, est un crime et l'article 47 se met à énumérer des éléments.
Nous allons revenir vers vous.
On reviendra là-dessus.
Honorable Mohamed Oulbou-Sidi, Monsieur Souleymane D vient de le dire tout de suite, une partie de cette constitution s'est inspirée de la France. Il y a certains également qui dénoncent le fait que ce projet de révision constitutionnelle, selon eux, a été rédigé par un avocat français. Est-ce que vous confirmez?
Bon, non, à mon avis, je ne pense pas, parce que je sais que le président avait commis une commission qui a déposé un rapport. Et au niveau du gouvernement, maintenant, ils ont lu le rapport et ils ont extrait, ils ont modifié, parce que c'est quand même lui qui est l'initiateur de la révision. Donc, il n'est pas tenu de transmettre, comme les gens le disent, ah non, on a modifié le rapport qui a été fait par les experts. Les experts, ils s'est inspiré de ce qu'ils ont fait. Mais il n'est pas obligé, en tant qu'initiateur de la révision, d'accepter tous les rapports. Donc le rapport pour nous en tout cas au niveau de l'Assemblée, nous en tenons à ce que le gouvernement, le texte que le gouvernement nous a transmis. Et sur ça que nous avons travaillé en tant que commission. Personnellement, j'ai été dans toutes les commissions pour les écoutes, Al-Kaidi et moi. Nous avons donc ce texte-là que nous... Maintenant, le texte des experts-là, nous, on n'a pas cherché à le... Parce qu'il n'a pas été transmis par le gouvernement.
Ouais, monsieur Honorable Al-Kaïdi, que pensez-vous de cela, qu'un avocat français aurait rédigé ce projet de révision constitutionnelle?
C'est aussi simple que ça. Si vous avez vu et la constitution malienne, moi, je ne suis pas constitutionnaliste, mais si les modifications qui devraient être apportées à cette constitution, je n'avais pas besoin d'aller faire trop de séances pour ça. Je prends la constitution, je prends les articles à modifier, j'en rajoute ou j'en diminue, c'est tout, aussi simple que ça. Pourquoi changer la nomenclature? Et c'est connu ça, tout le monde sait.
ce que les experts ont fait, ils ont mis ça de, tout simplement dans le tiroir.
Vous quel expert?
Bon, il y a eu un comité d'experts qui a été commis par le président de la République pour se plancher sur ce projet de révision constitutionnelle. Mais les travaux, ils sont où? Lui-même, il a reconnu que les travaux n'ont pas été fournis. Ça veut dire que les travaux n'ont servi absolument à rien. Ils ont commis un avocat par le canal de Tapo et on lui a créé...
Un
avocat français qu'il a reconnu. Et on l'a payé. Non seulement on a donné beaucoup d'argent aux experts, au comité d'experts, mais ensuite on a donné de l'argent à cet avocat. Et il l'a fait avec Tapo. C'est aussi clair, c'est aussi simple que ça. Et dans tous les cas, les conditions même dans lesquelles la révision a été faite, tout le monde le sait. Ça a été adopté en conseil des ministres, ils le savent. Les ministres n'avaient pas le projet en main. C'est nous qui avions donné des copies à certains ministres. Il ne faut pas qu'on vienne... C'est-à-dire, tout ce qui est en train de se faire montre qu'on veut cacher quelque chose. On cache quoi?
Alors, Souleymane D, les avocats maliens ne pouvaient-ils pas mieux faire avec une meilleure prise en compte des préoccupations des Maliens?
Vous savez que sur cette question bien précise, je préfère ne pas me prononcer parce que nous, on n'a aucune preuve par rapport à cette situation. Nous sommes universitaires. Les coulisses du pouvoir, nous ne rentrons pas dedans. Ce que je sais... nous avions à un moment donné décrié l'absence de l'université dans ce processus-là. Je pense que dans tous les pays...
L'université de Bamako.
L'université de droit. Dans tous les pays du monde, l'université est associée à ces grandes réformes. Je n'ai pas dit que les universitaires n'étaient pas dans la commission. On a des collègues qui étaient dans la commission. Est-ce qu'ils ont été convoqués dans la commission ou mis dans la commission à titre intitulé personnel, ou est-ce que c'est l'université qu'on a invité? Ce que je sais, c'est que sans chercher à nommer qui que ce soit dans une commission, je crois qu'il y a une nomenclature à respecter, on aurait dû mettre au moins les doyens de la faculté de droit dedans. Mais ce n'était pas le cas. Donc, par rapport à qui a fait le texte, est-ce que c'est le texte des experts? Je crois que lorsque une commission est mise en place pour la rédaction d'une constitution ou d'une norme, le rapport est confidentiel et adressé seulement au président de la République. Lui seul à la latitude de déclarer ses rapports publics ou pas. S'il ne le déclare pas public, nous ne pouvons rien dire. Voilà. Maintenant, ce que je veux simplement dire à mes honorables ici présents, vous savez que vous avez la charge de voter la loi et de contrôler l'action gouvernementale. Moi, je pense qu'il y a lieu aujourd'hui de procéder à une enquête parlementaire pour vérifier qui a fait quoi là-dedans. Parce que vous êtes tenus de contrôler l'action gouvernementale. Donc, à partir de là, on saura la vérité. Les Maliens sauront la vérité.
Honorable, est-ce que vous l'avez fait?
Mais est-ce que vous savez dans quelles conditions l'Assemblée nationale fonctionne? L'Assemblée nationale fonctionne, je l'avais dit ici, et ça a choqué des gens, mais c'est exactement un cabinet de gouvernement. L'Assemblée nationale, vous voulez qu'on contrôle...
Vous voulez dire que l'Assemblée nationale ne représente pas aujourd'hui le peuple malien, elle représente le gouvernement.
Je lui dis, si moi, aujourd'hui, je veux faire une enquête parlementaire, on va me bloquer. Si je fais... mais déjà, on a été bloqué seulement sur des questions orales adressées à des ministres. L'Assemblée a refusé. L'Assemblée, aujourd'hui, les conditions dans lesquelles l'Assemblée est en train de fonctionner, tout le monde le sait.
Honorable Mohamed Ould Sidi, est-ce que vous confirmez?
Bon, non, je ne confirme pas ce que le collègue... le collègue Al-Khaïdi dit, l'Assemblée nationale est une institution, elle vote les lois, et la preuve est que cette constitution, pour vous prouver que nous on est un peu libre quand même dans notre action au niveau, nous avons apporté 80 amendements sur le texte initial et le président de la République n'a pas trouvé, lui qui est l'initiateur, quand la commission l'a saisi pour dire, bon voilà, il dit il n'a pas d'enjeu dans cette commission, il n'a rien à défendre dans cette commission. C'est au peuple malien et à l'Assemblée de faire son travail.
Alors, Al-Khaïdi, oui, vous demandez le retrait pur et simple de ce projet de révision constitutionnelle. Le référendum a été reporté à une date ultérieure. La Cour vient de prendre en compte certaines des requêtes de l'opposition en demandant une correction du projet. Alors, est-ce que vous voulez dire tout simplement que la Constitution de 1992 ne doit pas être révisée?
Personne n'a dit que la Constitution de 1992 ne doit pas être révisée. Et je veux le corriger. Il dit 80 amendements. 80 amendements, c'est de quoi? Je vous ai dit qu'ils ont pris la constitution de 92, ils l'ont mis sur sa tête, elle devrait être sur ses pieds. Mais et ils sont venus la remettre sur ses pieds, c'est tout. Tout ça, c'est des erreurs de forme.
Alors, vous dites tout de suite que vous êtes d'accord avec la révision de la constitution.
Mais, je vous dis,
vous êtes contre quoi alors?
Nous sommes contre le fait qu'aujourd'hui, on exclut d'avance des Maliens. Les réfugiés ne peuvent pas voter. Les déplacés ne peuvent pas voter.
Ils ne peuvent pas voter dans les camps de réfugiés.
Bon, mettons qu'ils peuvent voter dans les camps. Les déplacés, ils vont voter où? Ils n'ont pas leur carte d'électeur ici. Ils ont leur carte d'électeur sur les champs. Il y a l'insécurité partout. sur tout le territoire. Vous ne pouvez pas dire à partir de Markala, il n'y a même pas de Mali.
Honorable Mohamed Oul Sidi, est-ce que des dispositions
ont été prises? Il y a
voilà,
pas de
Mali. Je pense que le ministère de l'administration territoriale est en charge d'organiser ces élections. Et les réfugiés, même lors des élections présidentielles et législatives, on a ouvert des bureaux de vote au niveau des camps de réfugiés en Mauritanie, un peu partout. Et ils ont voté et les scrutins, les résultats de leurs scrutins sont parvenus et comptabilisés par la Cour constitutionnelle au niveau du siège. Maintenant, je sais que les votes, je pense, moi, à mon avis, comme je dis, on est en train d'aplanir les difficultés avec la SEMA et la plateforme. Si ceux-ci donnent leur aval, partout, on pourra voter. Je ne dis pas que...
Vous êtes sûr que des dispositions seront prises pour que les déplacés, les réfugiés, tous les Maliens puissent voter?
Bon, les déplacés, à mon avis, sont là à Bamako, ou bien ils sont à
Honorable Mouti. Honorable Al-Kaïdi vient de le souligner, qu'il y a des difficultés pour qu'ils puissent avoir accès à des dossiers, à des documents qui pourraient les permettre de voter.
Bon, la carte NINA par laquelle on vote, là, c'est un petit truc de...
C'est qui est très nécessaire, qui est indispensable.
Donc, tout et les paysans, par principe, il met ça dans son porte-monnaie. Je suis sûr que là où ils sont là, et surtout que maintenant le gouvernement a pris la décision de transformer ça en carte d'identité. Et avec ça, ils se déplacent. Donc je pense qu'il n'y a pas de... Si les listes sont faites, les cartes NINA, je ne dis pas que tout le monde a sa carte, mais la plupart a ça. Parce que c'est un petit document, il n'est pas... Personne ne l'a perdu, hein, parce que il est tellement petit que ça se trouve toujours dans le porte-monnaie du paysan. Et les chefs de famille, les paysans, là, c'est eux qui gardent les cartes NINA de leur famille, les femmes et les enfants. Ça ne se promène, sauf si tu pars voyager.
Mais souvent, ce sont les petits trucs qui sont beaucoup plus faciles à perdre. Monsieur Souleymane D, vous aurez la parole tout de suite. Une seule minute
pour lui dire que les cartes NINA, la majorité a déjà décidé de frauder. Parce que quelqu'un qui se déplace avec sa carte NINA à Bamako ne peut pas voter à Bamako. Il est obligé d'aller. La personne est obligée d'aller à son lieu. Où il se trouve, là, au lieu où se trouve son bureau de vote. Donc, décidément, nous avons compris que vous avez décidé même de frauder. Parce que si tu maintiens que les gens qui ont leur carte NINA ici, qui se sont déplacés de l'intérieur pour venir à Bamako, peuvent voter à Bamako, ça c'est scandaleux.
Alors, Monsieur Souleymane D, que pensez-vous de ce vote des déplacés, des réfugiés également?
Je pense que les déplacés et les réfugiés ont toujours voté. Ça, c'est vrai. C'est que lors des élections présidentielles passées, ils ont voté et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas trouver des formules pour qu'ils puissent voter. Mais comme je l'ai dit encore une fois, nous sommes universitaires, nous ne sommes pas des politiques. Et ce débat porte surtout sur le travail des uns et des autres. Encore une fois, je répète que même sur ce plateau, j'ai entendu les deux honorables, quand ils ont pris la parole, saluer prioritairement les ressortissants des Dirée, etc. C'est très bien, parce que ça prouve qu'ils peut-être ils viennent de cette localité. Mais on dit que tout mandat impératif est nul. Une fois que vous savez qu'ils ont été élus à Dirée, mais faites attention quand même. Une fois que vous êtes élu, vous n'êtes plus député de la communauté vivant à Dirée. Vous êtes des représentants de la nation et de tous les Maliens. Et donc c'est à ce niveau qu'il faut comprendre le débat et demander à l'Assemblée nationale, comme je l'ai dit toujours, de porter le débat plus haut pour exiger du gouvernement de faire son travail et de pacifier les pays et de faire en sorte que les élections se tiennent. Et il y a quand même un problème. Je suis totalement d'accord avec Honorable Al-Kadhi quand il parle d'insécurité, mais ça ne devait pas constituer un frein à la révision de la Constitution, ou ça ne peut pas être constitué un frein à la consultation des populations à la base. Parce que vous le savez, c'est un danger. Si jamais nous mettons dans ces carcans pour dire que tant qu'il n'y a pas la sécurité et tant que le pays n'est pas pacifié, on ne pourra pas aller aux élections, il faut faire extrêmement attention parce qu'il s'agit de la consultation de tous les Maliens et il y a des échéances électorales à venir. Le camp d'en face pourra utiliser les mêmes arguments demain et pour bloquer, et il faut éviter au Mali les scénarios ivoiriens et aller vers ces élections-là.
L'opposition avait dénoncé un renforcement du pouvoir du président de la République à travers la nomination d'un tiers des Sénats, à travers la nomination du président de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous pensez que c'est réellement un renforcement du pouvoir du président?
Personnellement, les avis diverses. Moi, je ne crois pas, pour des raisons toutes simples. Vous savez que ce n'est que tout récemment au Sénégal, par exemple, que ça a changé. Le Conseil constitutionnel sénégalais, la totalité des membres du Conseil constitutionnel sénégalais sont nommés par le président sénégalais. Est-ce que cela a fait du président sénégalais un monarque? Je ne crois pas. Le fait que un tiers des sénateurs soit nommé par le président de la République, je crois que c'est là où il y a une différence avec
le projet de révision des débats. Et là, vous devez vous rendre compte que le contexte a changé, effectivement. L'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger dit qu'il faut prendre en compte les légitimités traditionnelles et religieuses, les femmes et les jeunes. Si ce n'est pas par le biais de la nomination, il est impossible de les prendre en compte. Et donc, c'est à ce niveau que le NTR là intervient. Et là encore, le Mali
mais
n'est
mais
pas...
est-ce qu'il ne serait pas mieux de laisser la population choisir tous les sénateurs?
Ce n'est pas le propre du Mali. En Côte d'Ivoire, c'est comme ça. Au Canada, plus de 60% des sénateurs sont nommés. Il y a dans plusieurs pays, les sénateurs sont nommés.
Mais au Mali,
ça ne pose pas un problème. Au Mali, je le répète, chaque fois que la case brûle, on court voir les leaders religieux. Hier, d'ailleurs, on a compris, tout le monde a vu, là, une délégation des religieux est partie à la la pyramide des souvenirs, rencontre la plateforme Ante Abana, parce qu'il paraîtrait que demain, ils vont rencontrer Hydra. Quand ça chauffe, les religieux sont mis en contribution pour apaiser les tensions. Alors, il n'y a rien.
Honorable Mohamed Oulissili, que pensez-vous de cette dénonciation que fait l'opposition en parlant de renforcement du pouvoir du président?
Moi, je pense que comme le docteur l'a dit, le professeur d'université l'a dit, moi je pense que ce n'est pas un renforcement. Parce que si on ne trouve pas dans les accords...
Est-ce que la Cour constitutionnelle a trouvé une solution à ce problème?
La Cour n'a pas dit dans l'arrêt, elle n'a pas dit qu'on doit revenir sur le tiers que le président doit nommer. Il a dit seulement que le mandat de ce tiers doit être précisé. C'est-à-dire comme celui de ceux qui seront élus à travers les conseils communaux.
Écoutons déjà ce que pense un membre de la plateforme Ante Abana touche pas à ma constitution, M. Thieblin Drami.
Premièrement, l'arrêt de la Cour ne nous surprend guère. Elle avait déjà annoncé le ton dans son avis du 6 juin, à la constitution comme on veut. Deuxièmement, que la Cour constitutionnelle administre une belle leçon au gouvernement et à l'Assemblée nationale en faisant un résumé des erreurs matérielles, des omissions et des turpitudes du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Rien n'a changé là. Nous avons demandé le retrait du document dès le premier jour. Alors c'est pas parce que la Cour corrige le gouvernement, que la Cour souligne les turpitudes du gouvernement et de l'Assemblée. Nous continuons à appeler les autorités maliennes à la sagesse. Nous continuons à inviter le président de la République à entendre la colère qui monte dans le pays, à ne pas s'arc-bouter et à retirer ce projet.
Honorable Mohamed Oulsidi, est-ce que cette demande de M. Thieblin Drami au nom de la plateforme sera prise en compte?
Bon, moi, je ne suis pas le président de la République ni le gouvernement.
Vous êtes de la majorité.
Je suis de la majorité présidentielle politique. Mais je suppose que le président doit être plutôt félicité, à mon avis, parce que ça fait on est au troisième essai de la révision constitutionnelle. Si lui, c'est un homme de parole, il a signé des engagements internationaux et des accords. Donc, tout ce qui l'entoure, que ce soit l'ONU, que ce soit, ne lui demande pas de retirer. Il lui demande plutôt d'appliquer les accords d'Alger. Et il ne peut pas les appliquer s'il ne passe pas par la révision constitutionnelle.
Alors, quelles sont les mesures qui sont prises pour permettre les corrections?
Bon, ça, je ne sais pas. Je sais qu'en principe, il y aura la Constitution, le gouvernement va la renvoyer au niveau de l'Assemblée nationale pour, bon, il y en a qui l'appellent une deuxième lecture, il y en a qui l'appellent pour des corrections. Mais en tout cas, ce qui est sûr, obligatoirement, le texte va revenir. Et le travail de l'Assemblée, cette fois-ci, ne va pas consister à reprendre tous les articles que la Cour a soulignés. C'est à mon avis, je pense, je ne suis pas président de la commission de loi, l'Assemblée va statuer seulement sur les erreurs matérielles et les choses à corriger que la Cour a constituées. Sinon, le reste du texte, à mon avis, il va rester intact. Ça, c'est mon point de vue là-dessus.
Alors, l'opposition, est-ce que vous ferez partie de ce comité qui va relire, entre guillemets, ce projet de révision constitutionnelle?
Bon, moi, je fais partie de la commission de loi, mais moi, je n'ai pas participé aux travaux de révision de portant sur la révision constitutionnelle pour des raisons personnelles, dans tous les cas.
Mais est-ce que vous allez participer à ces corrections?
Ça dépend. Moi, dans tous les cas, je sais
ça
que...
Ça dépend de quoi?
Bon, ça dépend de la bonne foi de tout un chacun. Je crois que... C'est-à-dire le
vous
travail...
Que ça dépend de la bonne foi de tout un chacun.
Je dis que quand on va dans une commission de travail et que ce que vous apportez pour eux, c'est d'avance perdue. C'est-à-dire la bataille des gens est d'avance perdue. Qu'est-ce que vous allez y faire?
C'est absolument ça. Parce que cette majorité n'a aucune considération, ni pour les Maliens, ni pour l'opposition. Et je viens de vous le dire. Quand ils ont voté cette loi, ils ont donné de l'argent à tous les députés de la majorité pour aller dans leur base. Mais ce n'est pas la majorité seulement qui compose l'Assemblée nationale. Et c'est regrettable que le président de l'Assemblée nationale le dise le jour de la clôture. Et aujourd'hui, on nous parle de le ministère de l'administration territoriale. Mais vous n'avez pas pu organiser des élections communales. Il y a 57 communes. Et lui particulièrement dans sa commune. Ils ont fait campagne. C'est la dernière minute que la ministre m'a refusé de superviser les élections. Je vous en prie. La situation dans laquelle le pays se trouve aujourd'hui, je vous en prie, n'amenez pas d'autres Maliens à aller mourir. L'accord d'Alger n'est pas bon. C'est la preuve, c'est la conséquence. C'est la conséquence. Parce que je vous dis une chose. Si l'accord était bon, si l'accord était aussi participatif et inclusif comme on l'a fait prétendre aujourd'hui, est-ce que tous ces millions de Maliens la vont sortir? Parce qu'ils ont choisi des sociétés civiles qui parlent dans la même direction qu'eux. Tout ce qui a été choisi pour aller à Alger, c'est tout simplement pour arriver à ça. Voilà. Donc c'est un accord au forceps. Ça ne peut pas marcher. Si on avait consulté tout le monde, est-ce qu'aujourd'hui, les gens vont refuser, des responsables vont venir refuser un travail auquel ils ont participé? Non. Mais c'est parce que la participation, ça a été choisi par la majorité. Les gens qu'ils veulent, ils les ont amenés. Les gens qui leur disent ce qu'ils veulent entendre, c'est eux qu'ils ont amenés. Donc, il ne faudrait pas qu'on continue dans ça. Moi, qu'on fasse quoi qu'on veuille, nous, on est des Maliens. Nous allons dire ce que nous pensons. Et c'est pour le Mali. Aujourd'hui, il n'y a pas de victoire, ni pour la majorité, pour la majorité. Et il faut qu'il y ait une victoire.
Est-ce que vous voulez dire que les préoccupations de l'opposition aujourd'hui ne sont pas prises en compte à l'Assemblée nationale?
Mais je viens de vous dire tout de suite qu'il y a eu des événements à dire. Moi, je devrais aller. On m'a bloqué, je n'arrive pas à aller simplement pour compatir à la douleur de mes populations. On me bloque, on m'empêche d'aller. Et on donne des instructions à l'administration pour qu'on ne me fasse pas voyager.
Mohamed Ould Sidi,
depuis
pourquoi?
Une semaine, il est là, il fait partie de la délégation, il sait.
Pourquoi?
Si, le lendemain,
on va lui donner l'occasion de répondre.
Le lendemain du projet de loi, Aziza, député de l'ADEMA qui est dans la majorité, est parti à Tombouctou, ils ont convoqué nos maires pour venir faire une restitution. Depuis quand est-ce qu'elle peut faire une restitution à notre place? Alors, et je vais corriger quelque chose.
Vous aurez la parole pour corriger quelque chose. Allez-y, monsieur Mohamed Ould Sidi.
Oui, par rapport.
Oui, et il dit tout de suite que l'Assemblée aujourd'hui, l'opposition.
Effectivement, la mission dont l'honorable parle, suite aux événements entre la population et la police de Diré, donc le président de l'Assemblée avait pris l'initiative d'envoyer une mission sur le terrain, composée de 3 députés, l'honorable Al-Kaïdi de Diré, moi-même de Goundam, voisin de Diré, et l'honorable Bokar, le député de Ragos. Maintenant, nous n'avons pas pu aller jusqu'à présent parce que moi, que c'est un problème de trésorerie. Parce que des députés qui se rendent à la base, il faut leur donner au moins les moyens. Et là, jusqu'à présent, il n'y avait pas de sous à la caisse.
Aujourd'hui, concernant la révision de la Constitution, honorable Al-Kaïdi vient de le dire, l'opposition, ses préoccupations ne sont pas prises en compte à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous confirmez cela?
Non, bon, l'opposition, moi je pense que sur ce plan, lui, il n'a pas participé au dernier séminaire au cours duquel nous avons recensé les amendements. Comme il vous a dit, pour des convenances personnelles, il était malade et tout ça. Bon, mais ce que je veux dire, c'est que le président du groupe de l'opposition, de l'IRD, l'honorable Modindjaï de Baraweli, avait présenté 42 amendements. Il a participé avec nous à tous les travaux. Et sur les 42 amendements, la commission avait accepté 36. Il restait seulement 12. Les 12, la commission les a rejetés. Parce que nous avons trouvé qu'ils n'étaient pas opportuns et qu'il ne fallait pas les mettre dans... Il est revenu là-dessus en plénière et la plénière les a rejetés comme c'est ça la procédure législative.
Alors, Monsieur Souleymane D, est-ce que vous pensez que la relecture de ce projet de constitution avec les corrections demandées par la Cour constitutionnelle pourrait faire que ce projet de révision constitutionnelle soit accepté par la majeure partie ou même tous les Maliens?
Nous le souhaitons. Ce que j'ai dit encore une fois de plus, que nous ne sommes pas des politiques. Et autour de ces plateaux, je me rends compte à quel point la colère elle est vive quand on entend les deux honorables. Je crois qu'il faut, dans ces pays, faire extrêmement attention. Moi, je l'ai dit et je l'ai dit tout le temps, le droit constitutionnel, enfin, la conscience, si on veut, n'est pas que seulement organisatrice. La conscience est à la fois, parce que quand on dit organisatrice, il s'agit de l'organisation de l'État. La conscience est aussi politique et la conscience est sociale. Je pense très sincèrement qu'il faut aller vers une paix sociale. D'ailleurs, dans la décision de la Cour, on a dit, et pour une fois, la Cour a bien spécifié que l'accord issu du procès d'Alger est un règlement de crise institutionnelle au Mali. Donc, pour ce, maintenant, l'accord a une valeur pour le jeu de la Cour. Donc, c'est un accord de sortie de crise. Et pour cela, je pense qu'une seconde lecture est une bonne chose et il ne faudra pas surtout que l'opposition, peut-être pour ça, ça manque, ça n'engage que moi, boude. Il faut y être présent pour apporter, encore une fois de plus, toutes les craintes et toutes les inquiétudes qui les animent, pour qu'ensemble, ils puissent trouver une solution. Parce que après tout, il s'agit de notre pays à nous tous. Qu'on soit universitaire, qu'on soit politique ou qu'on soit même vendeur de cacahuètes, c'est le Mali. Il ne faut pas pousser vers la casse de ces pays. Ça n'arrangera personne. Et je le dis tout le temps, si même je sors du côté du droit, en cas de casse, je ne suis pas sûr que ce soit les gouvernants qui seront touchés. Parce que, comme vous le savez très bien, ils sont plus nantis que nous, etc., etc. C'est nous, bas peuple, qui allons souffrir. Donc pour cela, je pense très sincèrement que toutes les démarches sont nécessaires et la nouvelle lecture, ça permettra peut-être de corriger ce déficit de communication qu'on reproche aujourd'hui au gouvernement et ce déficit de communication qu'on reproche à nos parlementaires parce qu'ils ont été traités de tous les noms. On dit qu'ils sont traîtres, on insulte pratiquement toutes les institutions de la République et je ne pense pas qu'aujourd'hui il va falloir ajouter encore une autre couche. Cette nouvelle lecture pour nous est une bonne chose parce que ça permettra d'aplanir les positions et de permettre d'accéder à une forte adhésion à la matière.
Alors, honorable Alkaïdi Touré, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que l'opposition accepte ce projet de révision constitutionnelle, puisque vous dites que vous êtes d'accord avec la révision constitutionnelle?
J'ai dit qu'il faut accepter aujourd'hui que le pays soit pacifié d'abord. Ça, c'est la seule condition. Sinon, inéluctablement, on va exclure des Maliens. Pas parce qu'ils ne veulent pas et jouir de leurs droits civiques, mais parce que tout simplement, ils ne peuvent pas. C'est aussi simple que ça. Et quand le professeur dit que nous, pour que région de mandat impératif, il a raison. Mais dans notre cas, je crois qu'on salue les auditeurs d'abord du studio Tamani, et particulièrement ceux de dire ce n'est pas interdit, ce n'est pas ça le mandat impératif. Voilà, ça, ce n'est pas interdit. Donc, je voudrais. Donc, il faudrait que la majorité accepte aujourd'hui que le Mali ne leur appartient pas. Parce que la conception que la majorité a du Mali aujourd'hui, c'est la conception de propriétaire. Et malheureusement, ce n'est pas possible. La majorité n'est pas propriété du Mali et n'est pas propriété des autres qui ne sont pas avec eux.
Alors, vous êtes d'accord aujourd'hui avec le contenu du projet de révision constitutionnelle, mais vous pensez que le moment est mal choisi.
Et il y a des points là-dedans qu'il faut absolument modifier.
Lesquels?
Par exemple, pourquoi deux catégories de sénateurs? Pourquoi deux catégories de sénateurs? Pourquoi la révision par le Congrès? Je vous dis, ça c'est un scandale, ça c'est l'instabilité tous les jours. Parce que mais c'est toujours la majorité. Chacun, vous savez, quand quelqu'un vient au pouvoir, tout le monde vient avec lui. Vous avez toujours la majorité. Vous voulez modifier pour nuire à quelqu'un, vous le faites. Donc si on abandonne la constitution entre les mains des politiques, ça n'est fini le pays. Ça c'est aussi simple que ça.
Mais la modification par le Congrès existe partout.
Je n'ai pas dit que ça n'existe pas. C'est pas parce que ça existe. Vous savez, ça dit, vous faites des comparaisons. Comparaison n'est pas raison.
Oui, mais les droits comparés.
J'ai dit comparaison n'est pas raison parce que tous les cas, il y a les pays auxquels vous faites référence.
Vous avez posé une question. Voilà, vous avez posé une question à laquelle tout de suite Monsieur Alkaï et Monsieur Mohamed Ould Sidi va répondre. Pourquoi?
Juste un exemple. Quand on a été au Sénégal, on a vu le directeur de ce chat des élections. Il dit que ceux qui l'ont nommé, même s'il veut les aider, il ne pourra pas parce que là-bas, c'est carrément calé. Il ne peut rien. C'est pas le cas du Mali. C'est pas le cas du Mali. Donc il ne faut pas comparer des pays qui n'ont pas la même conception du droit, qui n'ont pas la même mentalité que les Maliens.
Pourquoi le président devrait nommer un tiers des sénateurs?
Oui, bon, c'est pour faire participer toutes les grandes notabilités, la jeunesse et les femmes. S'il ne le fait pas, ça c'est un monde. S'ils partent à l'électorat, ils ne sont pas très connus des populations rurales. Donc, La CEOR, il y a des sommités parmi eux, même dans ce monde-là, il y a des sommités, c'est pour rehausser un peu aussi le niveau. Ça, c'est des chambres où il faut rehausser un peu le niveau.
On peut mettre la population ne pourrait pas être sensibilisée à choisir également ces personnes.
Bon, comme c'est une expérience, vous savez, si vous prenez même la décentralisation, quand on est en 99, quand on est les premiers maires là, on a vu toutes sortes de maires. Mais au fur du temps, les choses ont évolué. Maintenant, on voit des maires qui sont des grands diplômés, qui ont une certaine assise. Donc ça aussi, le Sénat, quand il va faire un exercice, c'est un Sénat à la malienne. On n'est pas obligé de copier les autres pays. Est-ce que vous voyez? Si on évolue, on voit que ça ne marche pas. 5 ans dans la vie d'un homme, c'est très facile à...
Alors, parlons de sensibilisation aujourd'hui. Est-ce que, commençons déjà à l'Assemblée, quand on voit que le texte est rédigé en français et qu'il y a des députés qui ne comprennent pas bien cette langue, est-ce que des dispositions sont prises pour donner plus de temps pour que les députés eux-mêmes prennent connaissance de ce texte pour qu'ils puissent mieux informer leur population?
Bien, je pense qu'à l'Assemblée, il y a un système de gestion. C'est que tous les députés qui ne parlent que les langues nationales, moi je ne dis pas illettrés, je dis parce qu'ils représentent quelque chose, c'est la raison pour laquelle ils sont venus à l'Assemblée nationale. Ils ont des interprètes qui leur traduisent, qui leur expliquent, et c'est suivant tout ce qu'on leur explique là qu'ils se prononcent. C'est eux qui sont députés, mais à chacun d'eux, on a mis un interprète qui est payé par l'Assemblée et qui lui explique. Et c'est des bons interprètes parce que vous n'ignorez pas comme moi qu'il y a beaucoup de jeunes diplômés d'administrateurs qui chôment, qui ne font rien, et que ces gens-là ont récupéré auprès d'eux pour faire leur assistant parlementaire. C'est un peu ça qui se passe.
Honorable Al-Kaïdi Touré, est-ce que vous pensez que ces dispositions ont été prises pour une bonne sensibilisation des députés d'abord et de la population?
Je vous en prie. Vous savez, il y a des députés qui représentent ces autorités-là qu'il est en train aujourd'hui de défendre. Ces députés, ils apportent quoi à l'Assemblée nationale? Il y en a. Ils apportent quoi?
Mais est-ce que des dispositions ont été prises pour sensibiliser?
Moi, je ne sais pas. Je ne connais pas les dispositions. En tout cas, s'il s'agit de l'Assemblée nationale, je ne vois rien de bon là-bas. Parce qu'ils ne veulent même pas que ça s'améliore. L'essentiel pour eux, c'est de jouir. De jure aujourd'hui parce qu'ils sont au pouvoir. Parce que lui, il nous dit que c'est un problème de moyens. Moi, je n'ai jamais demandé de l'argent à l'Assemblée pour aller à Diréa. Je voudrais simplement qu'on me facilite le voyage pour partir. C'est tout ce que j'ai demandé. Pendant que nous, on n'a pas de l'argent à nous donner, ils ont de l'argent pour se promener, pour aller faire des séminaires à l'extérieur. Ils n'ont jamais manqué d'argent à la majorité. C'est toujours quand c'est l'opposition qu'il n'y a pas d'argent. Donc les autorités dont ils parlent, j'ai dit qu'il y en a à l'Assemblée nationale. Je vous demande vous-même, vous suivez les travaux de l'Assemblée nationale. Ils apportent quoi? Absolument rien.
Alors, on va écouter le ministre Kassoum Tapo qui a tenu une conférence de presse cet après-midi.
La Cour a soulevé un certain nombre de points sur lesquels il faut revenir pour rendre la loi totalement conforme à la Constitution. Donc, on va revenir vers l'Assemblée nationale pour une... J'aime pas trop ce mot de deuxième lecture, mais en fait, c'est ça. On va mettre en forme la loi en suivant les indications données par la Cour, qui sont très précises. C'est un travail qui devrait se faire très rapidement. On va le faire en rapport avec l'Assemblée nationale, qui, comme vous le savez, est déjà en vacances. Le gouvernement sera prêt. Techniquement, le travail sera fait en fonction des indications de la Cour. La loi va être corrigée entre griffes selon les indications de la Cour et soumise à la représentation nationale.
Alors, la dernière question, on va la poser au constitutionnaliste Souleymane D. Aujourd'hui, après correction, peut-on s'attendre à un projet de révision constitutionnelle accepté par tous?
Nous l'espérons, si tout le monde joue son rôle, à commencer par intéresser, moi je l'ai dit, l'université par rapport à ces questions. Et nous sommes outrés, comme honorable l'a dit, à ce qu'on aille demander à des constitutionnalistes étrangers pour venir rédiger un texte malien, alors qu'au Mali, ici, l'État a mis des moyens pour former ses propres enfants à devenir des professeurs d'université, à devenir des docteurs, à devenir des agrégés. Donc je pense que nous avons ici, au Mali, des sommités qui peuvent aussi se mettre au travail
pour servir la nation.
Merci. Ce soir, nous avons parlé de révision constitutionnelle. La Cour renvoie le projet à l'Assemblée nationale pour correction. Alors, nos invités étaient Mohamed Ould Sidi, député du RPM de la majorité, Al-Kaïdi Touré, député de l'URD de l'opposition, Souleyman des constitutionnalistes, débat réalisé par Ibrahima Arane Diallo, à la mise en onde Noum Djiré, régie vidéo assurée par Mamadou Ouattara et à la présentation Mohamedou Touré. Demain, c'est un autre jour et un autre débat sur Studio Tamani.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edewani wa Makaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat de Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri. Halou Dmoni.
Chenne Beri. Sigi Kafoba.